Ce temps de Pâques, c'est le temps de la résurrection. Il dure 7 semaines, 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Et je vous propose de mettre à profit ce temps très particulier que nous avons chaque année pour parler de ce qui se passe après la mort, approfondir le sujet qu'on appelle les fins dernières. Que se passe-t-il après la mort ? Nous ne pouvons pas dire, et nous refusons qu'on dise que personne n'en est revenu, le Christ en est revenu. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Il est apparu à ses disciples. C'est le cœur même de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, vaine est notre foi, vide. Or, que se passe-t-il ? Depuis plus d'un siècle, très exactement depuis une encyclique parue en 1891 du pape Léon XIII, Rerum Novarum, qui a été une encyclique, une lettre formidable, en plein milieu, plutôt à la fin de la révolution industrielle, sur la question sociale, sur l'importance, effectivement, sur l'engagement des chrétiens de l'Église dans le monde. Eh bien, depuis plus d'un siècle, il y a eu au moins une douzaine, voire une quinzaine de grands textes magistériels, d'encycliques ou d'exhortations, de constitutions, même sur cette question qu'on appelle de doctrine sociale. Il y a eu Quadragesimo Anno, en 1931, du pape Pie XI, Mater et Magistra en 61, Pacem in Terris en 63, Gaudium et Spes en 65, Populorum Progressio en 67, Octogesima Adveniens en 71, Laborans Exercens en 81, Sollicitudo Rei Socialis en 87, Centesimus Annus pour le centenaire en 91, Caritas in Veritate en 2009, Laudato Si en 2015. Une grosse production, une grosse assise théologique de cette question sociale. Et pratiquement rien sur les fins dernières. Tout juste cette encyclique du pape Benoît XVI sur l'espérance, sauvée en espérance, Pays in Salvi, mais qui faisait d'ailleurs un constat d'échec. Constat d'échec, la vie éternelle ne fait plus envie. Or, nous ne pouvons pas comprendre la miséricorde si nous la dissocions du jugement. Notre comparution, tous, chacun, ce qu'on appelle le jugement en particulier, notre comparution à notre mort devant le Christ vivant. Parce que si nous la séparons du jugement, nous en ferions une exonération de responsabilité. Alors que les fins dernières sont fondamentalement un appel à la responsabilité. Nous répondrons de nos actes, de notre vie. C'est un appel au sérieux. Au sérieux de notre vie. À ses disciples qui l'avaient abandonné. Qui s'étaient tous enfuis. Jésus ne dit pas « c'est pas grave ». Il leur montre ses plaies. Et il leur parle de rémission des péchés. Et quand Dieu parle de rémission des péchés, il ne s'agit pas de ceux des autres. La bonne nouvelle de Pâques, bien sûr, c'est la résurrection. Mais c'est aussi ce que nous venons d'entendre, le retour de Jésus auprès de ses disciples, ceux-là même qui s'étaient enfuis. Et voyez ce premier constat, cette première caractéristique de ce texte, c'est un texte de retrouvailles. Un texte de retrouvailles, ce que sont à leur façon ce qu'on appelle les paraboles de la miséricorde dans l'évangile de Saint-Luc. Retrouvailles d'une brebis perdue, retrouvailles d'une pièce égarée, retrouvailles d'un fils dévoyé. C'est plutôt le père qui est prodigue. Mais ces retrouvailles sont une promesse du Christ. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Nous serons avec le Christ, mais avec surtout, parce que c'est notre espérance, avec les personnes que nous avons aimées, les personnes qui nous manquent. Oui, c'est notre espérance et c'est notre foi de retrouver nos chers défunts. C'est une promesse de Dieu. Mais comment est-ce que ça va se passer pour les personnes que nous n'avons pas envie mais alors pas du tout envie de revoir et de retrouver. Est-ce que nous ferons miséricorde? Est-ce que nous serons, comme le demande le Christ, miséricordieux comme notre Père est miséricordieux? Est-ce que nous pardonnerons? Pour pardonner, il faudra déjà que nous soyons nous-mêmes pardonnés, que nous ayons fait l'expérience du pardon pour nous, que nous gardions vivante cette expérience et cette joie du pardon. Voyez la difficulté que la plupart d'entre nous avons eu encore cette année, comme chaque année, difficulté pour nous confesser pour Pâques. On n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Personne n'aime reconnaître ses torts. Personne n'ose reconnaître sincèrement, fondamentalement, dire « Oui, j'ai péché. » L'Église nous demande de nous confesser au moins une fois par an. Et j'allais dire presque indépendamment de nos péchés. Les péchés véniels de la vie courante sont pardonnés à chaque messe. C'est une des vertus de la messe, de l'Eucharistie. Les fidèles pratiquants qui ne font aucun péché grave, et il y en a plus qu'on ne pense, eh bien l'Église leur demande quand même de se confesser, d'aller se confesser au moins une fois par an. Pourquoi? Pour vérifier qu'ils en sont capables. Capables de demander pardon. S'il fallait une image, c'est une sorte d'exercice incendie. Exercice d'évacuation, ça, les Latins, nous n'aimons pas ça du tout. Pourtant, l'histoire, et même récente, a montré que ça sauve à chaque fois des centaines, des milliers de vies. Une sorte d'exercice incendie en prévision de ce que nous aurons à vivre au moment de notre mort. La première chose à dire au Seigneur, bien sûr, merci, dans le meilleur des cas, mais pardonne-moi, Seigneur, pardon. La confession, comme tous les sacrements, a cette vertu qu'on appelle eschatologique. Elle sert à nous préparer à la rencontre du Christ à l'heure de notre mort. Et nul ne sait ni le jour ni l'heure. Comment savons-nous alors que nous sommes pardonnés? Bien, la plupart de vous en faites régulièrement l'expérience. C'est par la joie qu'on en éprouve. Dans le sacrement du pardon, par la foi de l'Église. Et aussi, de façon très concrète, par notre capacité à pardonner à notre tour. L'illustration la plus remarquable, c'est dans l'Évangile, ce qu'on appelle la parabole du débiteur impitoyable, à qui une énorme dette a été remise et qui ne veut pas remettre quoi que ce soit à un de ses compagnons. Et le maître lui dit... Enfin, écoute, je t'avais remis cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Elle est forte, cette phrase. Chaque fois que nous avons du mal, la difficulté, nous devrions pouvoir entendre cela de la part du Seigneur. Ne dois-tu pas avoir pitié de l'indulgence pour tes frères comme moi, dit le Seigneur. J'ai tant d'indulgence, tant de patience envers toi. Mes amis, il y a des personnes que vous ne voulez plus voir ou qui ne veulent plus vous voir. C'est une loi de l'existence. Alors, si on prend un petit peu de recul, on va dire simplement, nous connaissons tous des personnes qui sont irrémédiablement brouillées. Je ne parle pas de crime. Je parle de relations à peu près normales, familiales, amicales, et où survient à la suite d'une crise, des personnes qui ne se parlent plus, qui refusent catégoriquement de se revoir, sans qu'on sache pourquoi, et parfois elles-mêmes ne savent même plus pourquoi. Et si jamais vous voulez les inviter ensemble, elles disent « Ah non, si elle vient, je ne viens pas. » Incapable de se mettre à la même table. Que feront-elles à l'heure de leur mort? Quand elles arriveront devant le Christ et qu'elles verront auprès de lui, là où les personnes qu'elles détestent. Qu'est-ce qu'elles diront? C'est elle ou moi? Qu'est-ce que la miséricorde? C'est le secours de Dieu pour nous retrouver auprès de lui, unis en lui. Et cette miséricorde, elle est liée à notre nature blessée. Elle n'existera plus au paradis. C'est l'amour de Dieu pour les pécheurs, pour chaque personne, malgré ses péchés. Et cet amour, ce secours, a trois caractéristiques. D'abord, c'est ce que nous venons d'entendre, il donne la paix. La paix soit avec vous. Les disciples étaient bouleversés, ils sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Et il leur dit, on l'a entendu par trois fois, la paix soit avec vous. Le mot-clé ici, c'est apaisant. La miséricorde donne la paix, elle veut faire la paix. Elle veut faire la paix, elle veut nous réconcilier avec Dieu. Et quand c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible, entre nous. Ensuite, les évangiles insistent sur la présence de Jésus ressuscité à un repas. Il demande, on le lit dans plusieurs récits, est-ce que vous auriez quelque chose à manger ? La miséricorde, elle donne des forces. Et le mot-clé ici, c'est nourrissant. Le Christ les nourrit de sa parole. Il ouvre leur cœur à l'intelligence des Écritures parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole d'amour qui sort de la bouche de Dieu. Apaisante, nourrissante, la miséricorde est également inspirante. Elle veut le bien, elle pousse au bien, la bienveillance, la patience, à l'indulgence. C'est cette phrase qui doit être gravée en nous. Ne devons-nous pas avoir pitié des autres comme le Seigneur a pitié de nous? Apaisante, nourrissante, inspirante, c'est un reflet de la Trinité Sainte. La paix qui vient de Dieu. La parole est le pain de vie donné par le Christ, le souffle de l'Esprit. La miséricorde, c'est la tendresse, c'est le secours dont nous avons besoin en cette vie pour nous préparer à la rencontre du Christ.